à étudier avant d'en avoir fini avec l'histoire d'Église au XVIIe siècle. C'est un chapitre qui nous permettra d'ailleurs de faire la transition entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. C'est la question des galères, les galériens pour la foi, qui est un chapitre tout à fait particulier dans l'histoire de l'Église et qui mérite qu'on s'y arrête parce que les galériens pour la foi ont constitué, on peut dire, l'élite du protestantisme français tant au XVIIe siècle qu'au XVIIIe siècle. C'est en 1846 que l'escadre de la Méditerranée avait à sa tête un amiral qui était protestant, qui se nommait l'amiral Baudin. Et cet amiral, en fouillant dans les archives de la préfecture maritime de Toulon, a mis la main, par le plus grand des hasards, sur les registres d'écrous du bagne de Toulon, qui avait depuis ses origines jusqu'à nos jours, et enfin jusqu'à son temps du moins. Et dans ces registres-là, il y avait toute une partie de ces registres qui étaient consacrés aux galériens pour la foi. Et il a eu la grande surprise de découvrir justement les fiches de nombre de ces coreligionnaires qui, un ou deux siècles auparavant, donc, s'étaient trouvés dans cette même ville de Toulon, non pas du même côté de la barrière, hélas, mais bien justement du côté des galériens pour la foi. Un certain nombre de ces feuillets étaient détériorés et dispersés, déchirés, etc. Il a recueilli ce qu'il a pu et il a donc publié, il a fait don plus exactement de cet ensemble à la Société d'Histoire du Protestantisme. D'ailleurs, c'était tout à fait les débuts de la Société d'Histoire du Protestantisme français. Et ça a été une des premières pièces qui a été en possession de cette société. Et c'est grâce à ces registres d'écrous que l'on connaît, d'une part, la liste sinon de tous les galériens, du moins de la majorité des galériens protestants qui ont été condamnés donc au bagne pendant cette période sombre de l'histoire du protestantisme français, et aussi que l'on a pu reconstituer ce qu'a été l'histoire de ces galériens-là. La première chose qu'il nous faut dire quand nous parlons justement de cette période, c'est qu'est-ce que c'était que les galères ? Pourquoi armait-on à cette époque-là des bâtiments de ce type-là ? L'essentiel des galères à l'époque qui nous intéresse faisait partie de ce qu'on appelait l'escadre du Levant. Il y avait en France deux escadres, l'escadre du Levant qui était stationné à Toulon essentiellement, avec aussi une autre partie qui était stationnée à Marseille, et puis l'escadre du Ponant, dont le centre était à Brest, dans différents ports bretons, notamment Saint-Malo, et qui s'échelonnait jusqu'à Dunkerque au nord. La différence entre ces deux escadres, c'est que l'escadre du Ponant, c'est-à-dire l'escadre de l'Atlantique, si on dirait aujourd'hui, était essentiellement composé de navires à voile, dans la mesure où c'était une façade maritime où il y avait davantage de vent qu'en Méditerranée. En Méditerranée, il y avait parfois des moments de calme assez plats, et dans ce contexte-là, il était intéressant, outre bien entendu des navires à voile aussi, qui constituaient malgré tout l'essentiel de l'escadre, il était intéressant d'avoir des navires qui pouvaient justement être manœuvrés en cas de calme, en tout cas de vent insuffisant, et en particulier qui était capable d'atteindre, grâce à des rames, une vitesse élevée, qui étaient donc les galères. Les galères qui étaient des navires manœuvrés, qui étaient des navires mixtes, qui étaient manœuvrés à la voile. Il y avait des voiles sur les galères, contrairement à ce qu'on croit, n'est-ce pas ? Et en général, quand le temps s'y prêtait, les galères, n'est-ce pas, évoluaient à la voile, ce qui permettait d'économiser quand même le muscle des galériens. Et lorsque était aussi navire mixte à voile et à rame. L'intérêt justement des rameurs était double. D'une part, c'est que, comme disons tout à l'heure, si le vent n'était pas suffisant, on pouvait donc apporter un appoint. Deuxième avantage, c'est que l'on pouvait manœuvrer contre le vent et naviguer contre le vent, ce qui était un handicap pour les navires qui n'étaient manœuvrés qu'à la voile. Et puis troisièmement, quand on avait besoin de vitesse élevée, n'est-ce pas, de pousser une pointe de vitesse, on pouvait le faire. Bien entendu, la résistance humaine des galériens avait ses limites, tant et si bien qu'on ne pouvait pas soutenir des vitesses élevées très longtemps, et notamment des vitesses élevées contre le vent. Et les galériens qui ont laissé des mémoires, par exemple, ils ont l'occasion d'avoir, de voir, il y a un seul galérien qui a écrit, n'est-ce pas, qui était un galérien qui était originaire de Bergerac et qui se nommait Jean Morteil, qui a expliqué comment, n'est-ce pas, les galériens redoutaient particulièrement quand ils avaient à faire des pointes de vitesse contre le vent. C'était vraiment le moment le plus pénible dans la vie du galérien que ces moments-là. Mais donc c'était quand même relativement rare. La condamnation aux galères était, après la condamnation à mort, la condamnation la plus redoutée à cette période-là. Les galères aussi se caractérisaient par un faible tirant d'eau, et elles étaient essentiellement utilisées pour cette raison pour la guerre de course le long des côtes, et plus spécialement en face des côtes de l'Afrique du Nord, qui à cette époque-là donc étaient servaient de refuge aux navires barbaresques, c'est-à-dire musulmans, qui à cette époque-là, qui étaient aussi en général des galères d'ailleurs, et qui venaient ravager les côtes du sud de la France, comme d'ailleurs les côtes du tout le bassin méditerranéen, enlevant des enfants pour en faire des janissaires dans les palais des sultans, pillant, massacrant, etc. Donc, si vous voulez, les galères avaient aussi une fonction de garde-côte. Elles patrouillaient le long des côtes, justement, pour s'en prendre aux éventuels navires barbaresques qui auraient eu la mauvaise grâce de venir, justement, écumer les côtes de France. Autre utilisation des galères, donc contre les pirates, et puis pour la protection des navires marchands. Navires marchands qui étaient aussi des proies faciles pour ces pirates-là. Alors, ils étaient attaqués non plus le long des côtes, mais en haute mer, n'est-ce pas? Et souvent, les navires marchands qui étaient chargés, donc difficilement manœuvrables, étaient handicapés face aux navires de course ennemis. Par conséquent, on les faisait escorter par des galères qui, grâce à leur grande maniabilité, pouvaient intervenir rapidement et les protéger. Néanmoins, la galère était un navire léger, et notamment s'il se trouvait confronté avec des navires à voile lourds, n'est-ce pas, mieux armés, elle était fortement handicapée, et à ce moment-là, elle n'avait qu'à compter sur ses rames, justement, pour échapper à une éventuelle poursuite de la part de ces navires-là. C'est sous le règne de François Ier que la France a commencé à se doter de galères, et au début du règne de Louis XIV, la flotte des galères françaises avait atteint son apogée. Bon, il y avait donc différentes galères qui ont été réparties dans les différents ports de France. Par exemple, à Dunkerque, il y avait 6 galères. Vous allez me dire, mais en principe, la flotte du Ponant, vous avez dit tout à l'heure, il y avait moins de galères, en tout cas, que dans la flotte du Levant, mais il y avait aussi quelques galères, pour les mêmes raisons d'ailleurs. Et le galérien dont nous parlions il y a un instant a été d'ailleurs a servi sur les galères de Dunkerque pendant tout un temps, avant d'être muté justement à Toulon. Donc, les 6 galères à Dunkerque. À Rochefort, il y avait 15 galères. Rochefort, qui à cette époque-là était au bord de la mer. C'était un port à l'époque de Louis XIV. Et depuis Louis XIV, eh bien, la Charente a ensablé toute cette région-là, qui maintenant est sur le sec, n'est-ce pas? À l'époque de Louis XIV, la mer venait jusqu'à Rochefort, et Rochefort était un des grands ports de guerre, n'est-ce pas, de Louis XIV. Bon, il y avait également... Alors, c'était en 1692. Ça, c'est la répartition des galères en 1692. Il y en avait 2 à Brest, 2 à Bordeaux, et 2 à Saint-Malo, et le reste était essentiellement réparti à Toulon et à Marseille. Marseille était le grand centre de l'administration, n'est-ce pas, des galères. C'était une ville à cette époque-là surpeuplée, malsaine, l'hygiène y était déplorable, Et pour cette raison-là, il y avait de nombreuses épidémies qui s'y manifestaient. Déjà, c'était loin d'être un endroit agréable pour y habiter. Et dans les conditions dans lesquelles les galériens y étaient parqués, c'était quelque chose d'épouvantable. Le port, qui à cette époque-là était uniquement composé de ce qu'on appelle aujourd'hui le vieux port, était un cloaque infâme, boueux, pestilentiel. Voilà, en gros, dans les conditions dans lesquelles le port de Marseille fonctionnait à cette période-là. Il y avait un seul bâtiment qui était important, qui avait un certain standing, c'était l'arsenal. Et l'arsenal était contigu à ce qu'on appelait l'hôpital des galères, qui a été construit en 1645, et où, lorsque les forçats arrivaient des différents coins de France, étaient regroupés dans cet hôpital des galères. En principe, on y récupérait les invalides, parce que le voyage depuis les différents lieux de rassemblement des galériens jusqu'à Marseille était la plus grande épreuve à laquelle s'étaient soumis les galériens, et la grande majorité des galériens qui mouraient, n'est-ce pas, le taux de mortalité était infiniment plus élevé proportionnellement pendant la durée du voyage qu'ensuite quand ils servaient sur les galères où pourtant déjà le taux de mortalité était considérable, puisque pratiquement un galérien sur deux pour le moins mourait aux galères. Être condamné aux galères, c'était en général être condamné à une mort lente. Au lieu d'être décapité, pendu, brûlé, etc., on était condamné aux galères, mais enfin, on avait une chance sur deux d'y rester dans des conditions parfois extrêmement difficiles. L'hôpital des galères comprenait 7 salles de 300 malades, et puis la caserne, et pour la maréchaussée qui gardait les forçats, et le bagne proprement dit où étaient installés les galériens. À l'époque, il y avait en Méditerranée 46 galères, c'est-à-dire c'était en 1696, c'était le début du déclin des galères. Et dès la fin du siècle, c'est-à-dire au moment où les forçats protestants ont commencé à servir sur les galères, la valeur militaire de la galère commençait à décliner considérablement. Et en fin de compte, au début du siècle suivant, au début du XVIIIe siècle, et pendant toute la durée du XVIIIe siècle, les galères n'auront plus guère de valeur militaire véritables, elles ne seront maintenues que précisément comme bagne pour justement châtier les criminels, et leur utilité ne sera finalement plus que celle-là. Sur le plan militaire, elles sont complètement démodées. Par exemple, si on voit ici le nombre des galères, n'est-ce pas, en 1700, le nombre des galères est tombé à 40, et puis quelques années plus tard, il tombe à 30. En 1745, à peu près à la moitié du siècle, il y a encore 15 galères, sur lesquelles servent 2778 hommes d'équipage et 4318 forçats. Donc à partir de 1715, on peut dire que l'institution des galères décline considérablement. Outre les forçats qui sont installés sur les galères, il y a aussi 2000 forçats qui travaillent dans l'arsenal à des tâches administratives et autres. Bien entendu, ceux qui sont dans ces conditions-là ont un avantage considérable sur les autres. À partir de 1750, progressivement, les galères vont être désarmées. Il y aura donc un lent déclin de l'institution de ces bateaux tout à fait terribles. C'est en 1773 que la dernière galère est définitivement rayée des cadres de la flotte française, ce qu'on appelle la Royale. Bon, comment se présente une galère ? Ce sont de longs bateaux à fond plat qui sont inspirés des anciennes trirèmes grecques, qui étaient déjà des galères avant la lettre. De chaque côté de la galère, n'est-ce pas, il y a deux rangées de 50 rames. Une rame est manœuvrée par 5 forçats. En face de chaque rame, il y a ce qu'on appelle un banc sur lequel les 5 forçats sont enchaînés et qui donc sont disposés en arêtes de poisson le long d'une espèce de chemin central qui est légèrement surélevé par rapport au banc sur lequel les forçats sont installés et que l'on appelle le coursier. Le coursier, on aura l'occasion d'en reparler car c'était un endroit où les galériens protestants subissaient un supplice particulièrement cruel qui était la bastonnade lorsqu'ils refusaient de lever leur bonnet au moment de la messe. Alors ceux qui refusaient d'ainsi d'honorer l'hostie quand elle était consacrée étaient couchés sur le coursier, dénudés, le dos dénudé, n'est-ce pas, et avec une corde à nœud trempée dans de la poix, on leur administrait la bastonnade. Au bout en général d'une dizaine de coups, le condamné tombait dans les pommes, et puis certains ont subi jusqu'à plus de 100 coups, n'est-ce pas, et ont survécu. Et pour ajouter ensuite à l'agrément de la chose, n'est-ce pas, quand le malheureux se réveillait, on lui enduisait ses plaies vives de sel. Vous imaginez ce que ça pouvait représenter. Le but étant justement de les contraindre à lever leur bonnet au moment de la messe qui était célébrée à la poupe du bâtiment et auquel les forçats devaient automatiquement assister. Et malgré ça, un certain nombre de protestants ont subi maintes bastonnades. Certains sont morts après avoir subi la bastonnade, d'ailleurs, bien sûr. Mais certains l'ont subi plusieurs fois. C'était quelque chose de terrible, paraît-il. D'ailleurs, même la vue, n'est-ce pas, de ce supplice, c'était insupportable aux autres galériens, tellement c'était affreux, n'est-ce pas. Et alors, beaucoup de protestants ont subi ce supplice, couchés donc à plat ventre sur le coursier de la galère. C'était donc un passage élevé où se tenaient donc les officiers et ce qu'on appelait les comites. Les comites étaient des espèces des membres d'équipage, disons, on ne sait pas quel rang ils avaient, si on pouvait les assimiler à des sous-officiers. C'était plutôt des gardes-chourmes, c'était eux qui circulaient le long du coursier, justement, et qui étaient chargés de stimuler les ardeurs des forçats un peu mous, n'est-ce pas, en leur administrant aussi, justement, quelques coups bien appliqués pour les amener à ramener plus vite. Les comites, qui étaient des gens grossiers, vulgaires, cruels, sadiques, bien souvent, étaient aussi des individus qui étaient particulièrement redoutés des condamnés. Sur le gaillard d'avant, uniquement les matelots avaient la possibilité d'intervenir et c'était depuis cet endroit-là que l'on manœuvrait les voiles. Chaque galère avait 300 forçats qui la manœuvraient et 150 hommes d'équipage. Bien entendu, l'espace sur une galère était extrêmement compté et il y avait peu d'espace pour les hommes. La galère était un endroit très inconfortable pour le condamné, ça va sans dire. Le condamné était enchaîné à son banc. Il n'avait même pas la possibilité de se mettre debout, ni coucher. N'est-ce pas ? Il était enchaîné à son banc, notamment dans le combat, de façon à ce que si jamais les choses tournaient mal, eh bien, on soit sûr qu'il n'échappe pas. Et nombre de galériens sont morts dans des engagements navals contre des navires ennemis, tout simplement parce qu'ils étaient enchaînés à leur banc. Le fait d'être enchaîné à son banc avait d'autres désagréments, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne pouvait pas s'allonger pour dormir. Et les galériens devaient dormir dans des positions semi-recroquevillées, etc., des conditions terribles. Et puis alors, pire encore, n'est-ce pas, ils ne pouvaient pas évidemment bouger pour faire leurs besoins. Et les malheureux étaient condamnés à faire leurs besoins sous eux. Et vous imaginez ce que ça pouvait donner au bout de quelques jours, si la galère partait en croisière pendant plusieurs jours, ce que ça pouvait donner que tout cet ensemble d'hommes, n'est-ce pas, qui faisaient leurs besoins sous eux. Et de temps en temps, quand il y avait une lame qui balayait le pont, ça nettoyait un peu. Et puis autrement, voilà comment c'était, quoi. Mais même pour les matelots, pour les équipages, n'est-ce pas, la vie n'était pas non plus très agréable sur la galère. Et la plupart aussi vivaient dans un espace extrêmement confiné, extrêmement restreint. Seuls les officiers jouissaient d'un petit peu de confort à la poupe du bâtiment. Il y avait une espèce de ce qu'on appelait le château qui était surélevé et où le capitaine avait une certaine intimité, une cabine, n'est-ce pas, très restreinte où il pouvait être un peu seul et avoir un peu plus de confort que le reste de l'équipage, lui et puis quelques officiers qui étaient autour de lui. Une galère était un bâtiment de bois, léger, donc, comme je disais tout à l'heure, et qui est construit en général en 3 mois. La dernière galère fut construite en 1690. Voyez-vous, on n'en a plus du tout construit pendant le XVIIIe siècle. Et elles étaient toutes construites sur le même modèle, sauf la plus grande et la plus belle que l'on appelait la Grande Réale. La Grande Réale, au lieu d'avoir 50 bancs de rames, en avait 60. Et elle était donc superbement décorée. C'était en quelque sorte la galère amirale. Parfois, lorsque le roi venait visiter ces galères, ça lui arrivait rarement, mais ça lui arrivait de temps en temps, eh bien, c'est sur la Grande Réale qu'il embarquait, et c'est depuis la Grande Réale qu'il faisait la revue navale. Par la suite, la Grande Réale qui n'avait pas de valeur militaire véritablement, qui était une galère d'apparat plus qu'autre chose, est restée à quai. Dès la fin du siècle, elle est restée à quai, si bien qu'elle s'est rapidement détériorée. Et c'était finalement sur ce bâtiment que, dès leur arrivée au bagne, les galériens étaient envoyés. Et là, donc, les comites venaient faire leur choix. On faisait des lots, comme du bétail. On faisait des lots de galériens en fonction de l'âge, en fonction de l'état physique des différents galériens. Et puis ensuite, eh bien, comme des marchands de bestiaux, les comites représentant les différentes galères faisaient discuter, n'est-ce pas ? Ah, moi, je prends ce lot-là. Non, toi, c'est moi qui le prends. Toi, prends celui-là, etc. Enfin, ça discutait comme des marchands de tapis. Et puis chacun partait avec son lot après. Vous voyez comment c'était déjà. On avait vraiment l'impression, quand on arrivait au bagne, d'être évidemment très accueillis, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, c'était sur la Grande Réale que se passait ce véritable marché à bestiaux. Et puis, de là, eh bien, on était répartis sur la galère sur laquelle on passait le reste de sa vie, n'est-ce pas, à laquelle on était enchaîné jusqu'à la fin de ses jours, hélas, bien souvent. Logiquement, quand on était condamné aux galères, c'était à vie. Il n'y avait, en principe, pas de remise de peine. C'était comme ça. Alors, quelle était l'activité des galères ? Eh bien, elles intervenaient donc dans tout le bassin méditerranéen. Elles étaient dirigées par ce que l'on appelait l'intendant des galères. En 1665, cet intendant des galères se nommait Nicolas Arnaud, auquel succéda en 1673 son fils Pierre. Et puis en 1689, un certain Jean-Louis Aluc, qui était un homme dur et cruel, qui était redouté par les galériens. Au-dessus de l'intendant des galères venait le général des galères, puis le chef d'escadre. Et puis, il y avait aussi, sur chaque galère, des personnages particulièrement redoutés, des galériens protestants en particulier, c'était les aumôniers. Les aumôniers qui avaient un ministère, entre guillemets, tout à fait particulier à remplir auprès des galériens pour la foi, des galériens protestants, puisque, bien entendu, ils ne rataient aucune occasion pour tenter de les convertir. Le seul aumônier qui tranche particulièrement avec ce sombre tableau était Jean Vion, qui, alors lui, était un homme déjà beaucoup, beaucoup, qui n'avait pas la cruauté des autres aumôniers catholiques des galères, mais qui était un homme humain et bon, n'est-ce pas, qui tranchait considérablement avec les autres aumôniers, et qui évidemment tout de suite a eu l'estime des galériens protestants, d'autant qu'il a fait, cet homme-là, tout ce qui était en son possible pour les soulager, autant que cela a été possible, et puis respectant dans leur foi. Et un jour, n'est-ce pas, un galérien protestant avait été bastonné sur le coursier dans les conditions que j'évoquais tout à l'heure et inconscient, totalement saignant de partout, n'est-ce pas ? Il avait été descendu dans la cale de la galère, ou bien il en sortait, ou bien il en mourait. Et Jean Bion, donc, avait été l'assister, éventuellement l'aider à mourir si son heure était venue. Heureusement pour le malheureux, il s'en est sorti. Mais Jean Bion était tellement bouleversé par les souffrances de cet homme, et puis surtout par sa sérénité dans la souffrance, que Jean Vion a fini par se convertir au protestantisme. Il a fui évidemment son poste d'aumônier, et puis il a rejoint le désert, il a rejoint les protestants au désert. Impressionné qu'il a été par le témoignage de ces galériens protestants. À part cet homme, les aumôniers ont un grand pouvoir. Ils ont la possibilité d'intervenir directement auprès du roi. Et puis, ce sont en général des lazaristes, des gens de l'ordre de Saint-Vincent de Paul, qui ont un zèle bigot sans bornes. Et puis ensuite, on trouve les bas officiers, donc les commites dont je parlais tout à l'heure. Il y a des sous-commites aussi, et puis des argousins qui ont le bâton facile, hélas. Ça ira tellement loin qu'en 1700, il y aura une mutinerie sur les galères à cause justement de la cruauté de ces gens-là. Et puis après donc les équipages, il y a ce qu'on appelle la chourme. La chourme, c'est le nom que l'on donne justement à l'ensemble des forçats qui manœuvrent les rames. Il y a en fin de compte 5 catégories de condamnés aux galères en général. Les Turcs, c'est-à-dire les musulmans, qui ont été, on appelle turc tout musulman, quel qu'il soit, même s'il ne vient pas de Turquie, ce sont des gens qui ont été faits prisonniers dans des combats navals contre les navires ennemis et qui ont été repêchés à la suite de naufrages ou à la suite de prises de bateaux, n'est-ce pas? Et on les condamne à ramer ou dans les galères qu'ils attaquaient auparavant. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de condamnés qu'on appelle les faussonniers. Nous sommes à l'époque, n'est-ce pas, où le pouvoir impose une taxe énorme sur la consommation du sel, la fameuse gabelle. La gabelle qui, d'ailleurs, au siècle suivant, provoquera la Révolution française, puisque la Révolution française éclatera quand, justement, le peuple réclamera l'abolition de la gabelle. Alors, bien entendu, il y a des gens qui trichent sur le sel et qui essayent de produire et de vendre aussi, bien entendu, du sel détaxé qui n'est pas soumis à la gabelle. Bon, si ces gens sont pris, eh bien, ils sont envoyés aux galères. Ça ne rigole pas à cette époque-là. Ensuite, il y a les déserteurs. Les déserteurs sont en général condamnés aux galères. Et puis enfin, les huguenots. Donc, il y a deux catégories de gens, pratiquement, qui sont des... On pourrait appeler des prisonniers d'opinion, les huguenots et puis les turcs. Les turcs, d'une certaine manière aussi, qui, eux, sont un petit peu dans une situation qui n'est pas sans rappeler celle des huguenots, parce que eux aussi, ils connaissent des entraves au libre exercice de leur religion, bien qu'ils aient moins d'entraves que les protestants, d'ailleurs, n'est-ce pas? Et il y a une espèce de sympathie, un courant qui passe assez facilement entre les huguenots et les turcs sur les galères. L'essentiel des condamnés est tout de même sont quand même des faussonniers. Un tiers à peu près des condamnés aux galères sont des gens qui ont triché sur les gabelles. Les galériens protestants vont très vite former une véritable aristocratie des galères. Ce ne sont pas des gens de sac et de corde comme le reste des condamnés, bien évidemment. Mais ce sont des gens d'une droiteté, d'une droiture, d'une honnêteté totale, et ils vont gagner très vite le respect des autres forçats. À la fin du siècle, il y a 17 000 rameurs pour les 42 galères, n'est-ce pas, qui constituent la flotte royale, et qui donc vont manœuvrer cet ensemble des 42 galères. Alors... Que se passe-t-il à partir du moment où un protestant est condamné? Eh bien, dans un premier temps, il est incarcéré, donc à peu près là où il a été pris, là où il a été condamné. Il croupit en prison, il croupit dans des cachots humides et infâmes, n'est-ce pas, jusqu'à ce que le nombre des condamnés soit suffisant pour former une chaîne. Et bien évident qu'on ne va pas déplacer un ensemble de maréchaussées importants s'il n'y a pas suffisamment de condamnés pour former une chaîne. Et lorsque les tribunaux ont condamné suffisamment de gens, eh bien, on va entreprendre alors cette chaîne. La chaîne, c'est un des moments les plus terribles de la vie du galérien. Les galériens sont d'abord fouillés, nus pendant des heures, même s'il fait un froid terrible. Et ils restent là dans la neige, parfois dans le froid, des heures et des heures, c'est pas fouillé au corps jusque dans les parties les plus intimes de leur personne, et puis ensuite revêtus de quelques haillons minables, marqués au fer rouge sur l'épaule avec Galles, c'est pas galérien, au cas où ils seraient repris, ils puissent les identifier rapidement, c'est pas, et puis ensuite enchaînés avec une grosse chaîne de fer qui les prend au cou et qui les relie, n'est-ce pas, au galérien suivant. C'est ce qu'on appelle justement la chaîne, parce que c'est une véritable chaîne, c'est pas simplement une figure de style, mais c'est une véritable chaîne qui relie les condamnés entre eux, des dizaines de condamnés comme ça qui sont reliés. Alors vous imaginez ce que ça représente. D'abord, le collier de fer en question plus la chaîne pèse des kilos et des kilos. Et puis évidemment, quand ils s'arrêtent le soir, où ils peuvent, dans des espèces de granges, à tout vent, dans la prison du coin, etc., eh bien, ils ne sont pas déchaînés, évidemment, on aurait trop peur qu'ils s'évadent. Alors, ils dorment les uns sur les autres. Parfois, il y en a qui meurent. Et puis, le mort reste attaché à la chaîne jusqu'au lendemain où on découvre qu'il est mort. Et son compagnon doit dormir avec lui, mort, avec le cadavre, toute la nuit, etc. Ils sont parfois parqués dans des espèces d'écuries, dans du fumier, dans de la boue. Enfin, c'est quelque chose d'épouvantable. Et c'est la raison pour laquelle le taux de mortalité est terrible. Alors, vous avez des chaînes qui suivent des chemins traditionnels. Par exemple, il y a la chaîne de Bretagne, qui part justement ici du centre Bretagne à peu près, n'est-ce pas, qui passe ensuite, qui passe par Vannes. Par exemple, on connaît des galériens protestants qui étaient originaires de Vannes, ils sont dans le registre de l'amiral Baudin. Nantes, puis ensuite prend au passage les différents galériens qui sont en Poitou, Niort, Poitiers, Bordeaux, etc. Puis de là, on descend vers le sud, Agen, etc., jusqu'au moment où on arrive à Marseille. Tout ça, bien entendu, se fait à pied. Bien évident qu'on ne va pas installer les galériens dans des chariots tirés par des animaux, sauf vraiment cas exceptionnel. Mais en général, c'est toujours à pied que se font les déplacements par tous les temps, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, qu'il fasse chaud, etc. Enfin, les conditions sont toujours extrêmement, extrêmement difficiles. Sans compter, évidemment, qu'on a droit aux colibés des populations au milieu desquelles on passe. Bon, alors il y a la chaîne de Bretagne. Par exemple, mon ancêtre, Pierre Sauzeau, qui a été emmené aux galères en 1715, n'est-ce pas, a fait partie de la chaîne de Bretagne. Il a été donc agrégé à la chaîne de Bretagne quand celle-ci est passée en Poitou. Il y a la chaîne de Paris. Il y a beaucoup de condamnés, bien entendu, à Paris, qui suit alors la vallée du Rhône jusqu'à Marseille. Il y a, cette chaîne est aussi constituée de différents forçats qui viennent du nord ou de l'est, qui se rejoignent là. Il y en a d'autres qui partent directement de l'est et qui passent depuis Mulhouse, Dijon, etc. Enfin, la France est sillonnée comme ça de chaînes de galériens qui descendent ainsi vers le sud, vers Toulon. Oui, il y a trois chaînes principales, en fin de compte, celle de Paris, celle de Bretagne et puis celle de Guyenne, plus ensuite des chaînes secondaires et des embranchements. Celle de Paris suit la route de Bourgogne, par Fontainebleau, Lyon, Pont-Saint-Esprit, etc. Bon, la mortalité, comme nous disions, est effrayante sur la route. Alors, quand il arrive au bagne, le condamné, nous l'avons vu tout à l'heure, est emmené sur la Grande Réale. De là, il est réparti sur une galère, et puis là, il est ferré à son banc. Il touche deux chemises, jamais de chaussures, donc par tous les temps, il est pieds nus, et un bonnet rouge, le fameux bonnet qui va souvent faire problème au moment des messes. La nourriture, c'est très varié, soupe de fèves, matin, midi et soir. Voilà le seul repas, n'est-ce pas, dont les condamnés peuvent se prévaloir. Alors les punitions sont nombreuses. La bastonnade dont nous parlions tout à l'heure, mais ça peut aller jusqu'à la mutilation. On leur coupera par exemple une oreille, le nez, etc. La prison, le cachot, et l'une des punitions les plus redoutées, le cachot dans le fameux fort Saint-Jean au château d'If, qui est encore aujourd'hui un endroit visité dans le tourisme marseillais. Bon, voilà en gros, si vous voulez, comment les choses se passent. Le répit vient en hiver. En hiver, au moment des tempêtes, les galères ne sortent pas, en principe. Elles sont d'ailleurs tirées au sec, repeintes, réparées, etc., réarmées pour la saison suivante. Et là, pour la première fois, n'est-ce pas, les galériens ont la possibilité de descendre à terre. Ils rejoignent le bagne à l'intérieur de ce qu'on appelle l'hôpital des galères. Et là, la plupart d'entre eux jouissent, du moins ceux qui se conduisent à peu près bien, d'une espèce de semi-liberté, dans ce sens qu'ils peuvent s'occuper comme ils veulent. Par exemple, certains font des petits travaux, menuiserie, serrurerie, travaux d'aiguille, et choses semblables. Et de temps en temps, ils ont la possibilité, enchaînés sous la direction de leur comite, d'installer des petits étals à l'entrée de l'hôpital et de vendre les petits objets qu'ils ont fabriqués, ce qui leur fait un peu d'argent de poche et qui leur permet évidemment d'améliorer un peu leur ordinaire. Ça vaut pour les faussonniers, ça vaut pour les criminels, ça vaut pour les déserteurs, ça vaut pour les Turcs, ça vaut pas pour les Huguenots. Les Huguenots sont la seule catégorie de prisonniers qui n'a pas le droit de vendre ce qu'ils auraient éventuellement fabriqué. Pendant ce moment-là, ils peuvent être visités par leur famille, sauf les Huguenots, une fois encore. Et puis, quand ils atteignent un certain âge, pour ceux qui atteignent un certain âge, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et qu'ils ne peuvent plus ramer, eh bien, on les déporte en Guyane, en général. Ils finissent leur jour, la plupart d'entre eux, en Guyane. Alors, vous voyez la condition du galérien, ce qu'elle était dans cette période-là. Alors maintenant, à partir de quel moment commence-t-on à avoir des galériens protestants? Les premiers galériens protestants qui apparaissent aux galères en 1666, les premières mentions, n'est-ce pas, ce sont les Vaudois. En 1545, les premiers Vaudois interviennent sur les galères. Et chose terrible, n'est-ce pas, on note parmi ceux-là des enfants de 13 à 15 ans. Des jeunes gens de 13 à 15 ans et des vieillards de 80 ans qui sont condamnés aux galères. L'édit de Nantes ordonne que tous ces gens-là soient libérés. Mais évidemment, sous Louis XIII, déjà les premières condamnations reprennent, alors que, en principe, l'édit de Nantes n'a pas encore été aboli. Mais une des nombreuses entorses qui est faite à l'édit de Nantes avant sa révocation par Louis XIV, c'est que justement on recommence à condamner des protestants aux galères. Parmi les motifs de condamnation aux galères des protestants, la condamnation la plus fréquente, c'est la tentative de fuite à l'étranger. En effet, l'édit de Nantes, vous vous en souvenez, interdisait toute fuite à l'étranger pour des raisons religieuses. Et nombre de protestants qui ne supportent plus le double jeu qu'on leur fait subir, vivant en Marane, comme le faisaient les Juifs en Espagne ou au Portugal, et avec cette différence que les Juifs, eux, avaient eu l'autorisation d'émigrer, ce que les protestants n'avaient pas eu. En quelque sorte, le sort des protestants avait été pire que celui des Juifs au moment de l'expulsion d'Espagne. Et alors, donc, certains tentent de le faire clandestinement. La police royale, évidemment, surveille très étroitement les frontières et les côtes, et nombre de protestants se font prendre au moment où ils tentent de sortir du royaume. En général, ce genre de choses ne pardonne pas, et on se retrouve aux galères. C'est le cas de Pierre Sozo, mon ancêtre, qui donc avait fait une première tentative de fuite par la frontière belge, s'était fait prendre, avait été condamné à une lourde amende, mais avec un avertissement, ça s'était borné à cela. Il avait récidivé quelques années plus tard avec sa femme et ses deux enfants. Et là, il s'était fait prendre à La Rochelle au moment où il tentait de s'embarquer pour l'Angleterre. Et donc, lui et son fils de 18 ans ont été condamnés aux galères. Le fils, finalement, avait été seulement emprisonné. Il n'avait pas fait son temps en galère parce que, étant âgé de 18 ans, il était trop jeune. Et les deux femmes, donc sa femme et sa fille, elles avaient été enfermées dans un des couvents de Niort, n'est-ce pas, jusqu'à leur mort. Donc, tentative de fuite à l'étranger, assistance aux assemblées religieuses, et notamment pour ceux qui jouent un rôle particulier, ou encore hébergement d'un pasteur. Voilà les trois motifs de condamnation aux galères. Maintenant, celui qui aide à un huguenot à fuir la France, qui sert de guide, lui, ce n'est pas les galères, c'est la mort. Il est condamné à mort. Donc sont condamnés ainsi aux galères toutes sortes de gens. On trouve parmi les galériens protestants des jeunes gens, l'avons vu tout à l'heure, des vieillards, mais on trouve aussi des nobles. Le fait d'être noble ne vous épargne pas les galères, Et on trouvera aussi des gens d'une haute lignée qui se retrouveront ainsi avec des vauriens de la dernière espèce. Après la révocation, bien sûr, le nombre des galériens protestants va augmenter considérablement. Les Huguenots sont d'abord jetés en prison, où, avant leur condamnation, ils sont l'objet de tentatives de conversion, étant entendu que la conversion leur éviterait les galères. Voyez-vous, là, c'est quelque chose de tout à fait subtil. Et avant le procès, on les laisse croupir en prison, visiter et revisiter par des aumôniers qui leur proposent la conversion en échange de leur élargissement. Alors il faut une force d'âme peu commune, n'est-ce pas, pour pouvoir résister, vous pensez bien, à de pareilles pressions. Et la majorité des galériens, finalement, le fera et résistera justement à des pressions de ce type-là. Par exemple, Jean Marteil raconte qu'il a été incarcéré avec deux gentilshommes qui avaient été arrêtés pour la même raison que lui et qui avaient cherché à fuir la France. Lui était tout un simple roturier, mais les deux gentilshommes étaient dans la même prison que lui. Et puis eux, quand ils se sont vus en prison, la perspective des galères, ont tout de suite convenu d'abjurer. Effectivement, ils ont abjuré. Et ils se sont trouvés aux galères quand même. Ça les a pas sauvés. Et vous, il y avait aussi un double langage, on promettait parfois des choses qu'on ne tenait pas par la suite. Alors, ensuite, à partir du moment où on est ainsi condamné, on prend part à la chaîne, bon, on l'a vu tout à l'heure. Certains dorment dans la fiente d'animal, dira Marteil. Ça va jusque-là. Et puis, l'attitude du personnel est en général très difficile à supporter. Un des intendants les plus cruels se nomme Montmort, et ceux qui tentent de secourir leurs camarades, par exemple battus ou choses semblables, sont eux-mêmes battus. Hein, si on essaie de soigner un camarade qui a été bastonné, par exemple, on risque de subir la bastonnade soi-même. Alors la plupart des gens, bien, les autres forçats restent tranquilles et puis attendent de voir si leur camarade s'en sortira. Les officiers sont complètement manipulés par les aumôniers, qui sont ceux qui font la loi à bord des galères, n'est-ce pas, et qui finalement imposent ce qu'ils veulent. Les comites et les argousins ont une grande férocité, et notamment, c'est l'époque, nous verrons la prochaine fois ou une des prochaines fois, de la guerre des camisards. Et au moment où la guerre des camisards fait rage, les argousins vengent sur le dos des malheureux forçats qui n'y peuvent mais les succès des camisards et finalement ce qui se passe justement dans les Cévennes. Certains, note quand même Jean Marteil, iront jusqu'à se laisser adoucir et refuseront de continuer à frapper les Huguenots protestants. Ce sera surtout au siècle suivant. Mais c'est rare. La plupart ne se privent pas. Le XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières, où l'idée de tolérance, de respect de la personne humaine fait son chemin, et ça fera son chemin malgré tout jusque vers le personnel des galères et le traitement, si vous voulez, des Huguenots au siècle suivant, au XVIIIe siècle, aura tendance quelque peu à s'adoucir par rapport à ceux de la première période qui a suivi immédiatement l'édit de Nantes. Pour vous montrer jusqu'où allait la férocité des aumôniers, ils allaient jusqu'à intercepter les lettres qui étaient envoyées par les familles. Voilà. Les vivres que parfois les familles, en se privant, réussissaient à envoyer aux leurs qui étaient aux galères, c'est pas, et bien tout ça, en général, et bien ça, les aumôniers récupéraient ça pour eux, puis partageaient ça entre eux. C'est pas. Et puis, ils empêchent même les Huguenots de communiquer entre eux, de prier entre eux, enfin des choses comme ça. C'est vraiment des tracasseries incroyables, et eux-mêmes parfois n'hésitent pas à prendre le bâton et puis à taper sur le dos de ceux qui sont en principe chargés de convertir à l'évangile tel qu'ils le conçoivent. Alors, la situation des condamnés est telle qu'ils sont soumis à une souffrance physique intense, due au surmenage bien entendu, la misère, la pauvreté, la nourriture déplorable, le manque de sommeil, le froid, la vermine, j'en passe et des meilleurs. Quand un forçat tombe malade d'un point tel qu'il ne peut plus ramer, il est emmené à l'hôpital des galères, où on le laisse dans un coin, c'est pas où il en meurt, où il en réchappe finalement. Les soins qui lui sont prodigués sont des plus sommaires. Et même à l'hôpital, sur son lit, le malheureux est enchaîné. Il ne peut pas bouger de son lit un seul instant. Donc la condition des malades et prisonniers est particulièrement terrible. En 1720, par exemple, il y aura une épidémie de peste dans la ville de Marseille et 272 forçats mourront de la peste. Et bien entendu, personne parmi les forçats ne se porte volontaire pour enterrer les morts. Alors on réquisitionne de force les galériens protestants. C'est eux qui vont justement faire servir de croque-mort en quelque sorte, contre la promesse d'ailleurs d'une libération. Et quand ils auront terminé leur office, on ne les libère pas pour autant. C'était encore une fois des promesses fausses. Ensuite, à la souffrance physique, il y a les fatigues et les dangers. Une des grandes craintes des galériens, c'est de partir en campagne, de partir en croisière de combat. Mais les protestants sont toujours placés dans les galères qui sont en première ligne. C'est la volonté du roi qu'il en soit ainsi. Et puis, il y a, par exemple, Marteil raconte comment, dans un engagement contre des navires anglais, leurs galères, sur la Tamise, d'ailleurs, ils se sont avancés jusque dans l'estuaire de la Tamise, là, ils sont tombés sur des bateaux anglais qui les ont canonnés, et il a été blessé, il a failli mourir, n'est-ce pas, blessé dans cet engagement contre des navires anglais. À ces dangers non négligeables, il y a aussi les souffrances morales. Et une des souffrances morales les plus considérables pour les galériens protestants, c'est la messe. On la célèbre très souvent sur les galères et on les contraint de se comporter en catholique. Elle a été instituée sur les galères, la messe, pour une unique raison. Vexer les huguenots. Ça n'a pas d'autre but. Jamais auparavant, jusqu'à ce qu'il y ait des galériens protestants sur les galères, on avait célébré la messe sur les galères. On estimait que les Vauriens qui étaient là n'en avaient pas besoin. Mais depuis qu'il y a des huguenots, très souvent, au moins chaque dimanche, on célèbre la messe. C'est d'ailleurs tout à fait curieux. Sont les seules galères au monde où l'on célèbre la messe. Même sur les galères du pape, on ne célèbre pas la messe. Alors, vous voyez jusqu'où ça allait. Et alors, au moment de la présentation de l'hostie, les galériens sont obligés de se mettre à genoux, tête nue. Et c'est là qu'intervient le fameux problème du bonnet dont je parlais tout à l'heure. La plupart des huguenots restent assis à leur banc, bavardent, sont ailleurs, sont absents, montrent ostensiblement qu'ils ne participent pas. Et puis, évidemment, ne se mettent ni à genoux et n'enlèvent pas le bonnet. Alors, c'est là qu'intervient la fameuse bastonnade dont, justement, nous parlions tout à l'heure. Devant cette situation, les puissances protestantes, Angleterre, Hollande en particulier, Suisse, vont protester auprès du roi. Et finalement, devant les pressions de ces puissances, le roi ordonnera que l'on arrête les bastonnades. Et finalement, il y aura un modus vivendi, déjà sous le règne de Louis XIV, on admet que les protestants restent couchés sur leur banc quand on dit la messe. Alors c'est merveilleux, parce que c'est le seul moment où ils peuvent être couchés, parce que les autres sont debout. Alors, ils ont tout le banc pour eux, ils s'installent, et c'est le seul moment où ils peuvent être finalement couchés. Bon, ne parlons pas de la promiscuité de ces hommes qui vivent comme ça, parfois des actes répugnants, bien entendu. Certains forçats non chrétiens, bien entendu, criminels et autres, sont des homosexuels, et vous imaginez ce qui peut se produire. Et puis enfin, parfois aussi, les galériens ont l'impression qu'ils sont abandonnés d'un peu tout le monde, quoi. Parfois, les peines sont aggravées, comme si c'était déjà pas suffisant. Par exemple, il y avait cet édit du roi qui avait été publié à tous les responsables des galères. Voilà ce qui était dit littéralement. « Sa Majesté veut que les protestants souffrent plus longtemps que les autres. » Voilà. Et c'est ainsi que les protestants n'étaient pas détachés l'hiver. Ils gardaient leur fameux collier du commencement à la fin de l'année. Ils étaient écartés des petits commerces, je l'ai dit tout à l'heure. Et Louis XIV a décidé qu'aucun protestant ne sortirait jamais vivant des galères. Même ceux qui sont blessés au combat ne sont pas libérés, contrairement à l'usage pour les autres prisonniers. On connaît donc des condamnés qui ont subi jusqu'à 120 coups de cette fameuse bastonnade sur le coursier. Parfois, on renouvelle le supplice le lendemain et on connaît à peu près de 200 à 300 condamnés huguenots qui ont subi la bastonnade. Par exemple, un déclare, avant de s'évanouir, au 10e coup de fouet, « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. » Et pour avoir dit cette parole, eh bien, il est condamné à recevoir 20 coups supplémentaires, outre ceux qu'il devait recevoir par sa première condamnation, parce qu'il a eu cette parole malheureuse. Voilà. Et donc, finalement, je dis, le roi se décidera à abandonner cette peine barbare. Les Turcs sont seuls ceux qui réconfortent un peu les huguenots. Ils ont une certaine liberté de culte et on ira jusqu'à leur construire une mosquée à Marseille. Coïncidence. Bon. Toute ressemblance avec des événements actuellement en cours serait tout à fait fortuite. Bon, finalement, bien que les visites soient difficiles, un certain nombre de gens vont essayer d'organiser des secours pour les galériens protestants. Et à Marseille, il va y avoir des comités qui vont se créer. Des secours en France, par exemple, à partir de 1726, sous l'influence d'Antoine Court, après la guerre des Cévennes, les synodes qui sont organisés par Antoine Court vont voter une résolution en demandant que l'on vienne au secours des galériens. La Suisse sera le pays le plus secourable pour les galériens et de Genève, Lausanne, Zurich, Berne, Bâle, Saint-Gall, Schaffhouse, Neuchâtel, etc. Vont se créer des comités d'aide pour les galériens. Et parmi cette aide aux galériens, il y en a une qui va intervenir, c'est que finalement, à la fin du règne de Louis XIV, et surtout sur le début du règne de Louis XV, la Régence et puis Louis XV, n'est-ce pas, l'État français a des besoins financiers importants. Louis XIV, par ses guerres, a ruiné la France. Bon, la révocation et l'exode des protestants a aussi ruiné la France, tant et si bien que la France a des difficultés financières importantes. Et c'est pourquoi les protestants de Suisse en particulier, mais aussi ceux d'Angleterre et de Hollande, organisent des comités qui rachètent les galériens contre monnaie sonnante et trébuchante. Et alors que le roi a interdit que des galériens protestants sortent vivants des galères, si on peut payer une somme importante pour eux, on ferme les yeux, on fait quelques exceptions. Et à condition, bien entendu, qu'ils sortent du royaume. Alors c'est assez cocasse, parce que la plupart de ces gens-là ont été condamnés pour avoir tenté de sortir du royaume, et quand on les libère après que d'autres aient payé une rançon pour eux, eh bien, c'est à condition expresse qu'ils vont quitter le royaume. C'est ainsi, par exemple, que Jean Marteil fuira en Suisse. Mon ancêtre, Pierre Sozo, lui aussi, il sera racheté par des Suisses. Et après 5 ans de galère, il sera libéré après 5 ans de galère. Il a passé un temps relativement court. Et donc, se rendra à Schaffhouse, en Suisse, où il finira ses jours là-bas, donc dans cette ville de Schaffhouse. Certains vont se réfugier en Hollande, en Allemagne, à Berlin, rejoignant le refuge, en quelque sorte, quand ils auront été ainsi libérés. Et finalement, beaucoup d'entre eux vont l'être au bout de quelque temps grâce à cette intervention justement de ces secours, surtout à partir du XVIIIe siècle. Alors, sur les galères, les protestants ont une vie spirituelle intense. Pour eux, ils sont là par la volonté de Dieu, ils se soumettent à la volonté de Dieu. Ils ont une tenue morale, une fermeté dans leur conviction, dans leur piété, qui est absolument exemplaire. C'est ce qui leur permet de tenir, forcément, parce qu'il leur suffit d'un mot, en principe, « je me réunis », et logiquement, ils sont libérés, et leur souffrance cesse instantanément. Et on parvient à leur faire parvenir en fraude des livres, la Bible, des livres de psaumes, Nouveau Testament, ou bien des livres pieux qu'ils arrivent à dissimuler sur eux, et ils parviennent à tenir au nez à la barbe des commis, parfois avec leur complicité d'ailleurs, ils les achètent contre de l'argent ou contre des choses, et les commis ferment les yeux et ils font des cultes clandestins sur les galères le soir. Bien entendu, si on trouve sur eux les livres, on les brûle, ils n'ont pas le droit de posséder de tels livres. On connaît par exemple un galérien du nom de Nau qui a composé 152 cantiques pendant qu'il était aux galères. Il faut le faire. Et puis certains galériens criminels condamnés pour différentes raisons se convertissent. Il y a un véritable prosélytisme dans les galères parmi la chiourme, et nombreux sont ceux qui se convertissent aussi. Il y a peu d'évasion. Il y en a quelques-unes parfois, mais il y en a peu. D'abord parce que c'est extrêmement difficile. Deuxièmement, parce qu'il y a une forte récompense pour celui qui dénonce un galérien en fuite. Et puis troisièmement, parce que, sauf exception, la plupart des galériens protestants ne cherchent pas à s'évader. Encore une fois, ils considèrent qu'ils sont là par la volonté de Dieu et que, par conséquent, ils subissent. Il y a une forte proportion d'abjuration. Et nombreux sont ceux qui sont libérés pour avoir abjuré. Mais l'abjuration, en général, c'est une abjuration, formelle. Hein. Et dès qu'ils sont libérés, forcément, ils rejoignent le désert, en général. Hein. Alors ça pose un problème, d'ailleurs, par rapport à ceux qui refusent d'abjurer, qui ont une plus grande force morale. Bon, en général, l'abjuration, c'est pour eux une simple formalité, ils gardent la foi protestante. Et puis donc, à partir de la première moitié du XVIIIe, donc ils sont libérés contre de fortes sommes d'argent. La princesse Palatine sera une des grandes dames d'Europe qui va intervenir le plus en faveur des protestants et qui, de sa propre fortune d'ailleurs, rachètera aussi beaucoup de protestants. Par exemple, le baron de Salgas, qui était un noble, qui avait été condamné aux galères, qui était un homme âgé, sera libéré grâce à elle. Notons aussi Anne d'Angleterre, qui elle aussi interviendra, par exemple, le 11 octobre 1712, elle obtiendra, nous dit Jean Marteil, la libération de 22 galériens. Les mêmes comités qui ont libéré les galériens ont organisé tout un réseau d'accueil pour les galériens au moment où ils sont libérés pour les accueillir à l'étranger. À partir de 1750, le régime des galères se relâche dans sa rigueur. Les galères, nous l'avons vu, sont démodées, elles ne s'éloignent plus guère du littoral, finalement elles ne prennent plus pratiquement la mer, on en conserve quelques-unes simplement dans certains états méditerranéens, mais pratiquement la galère en tant que navire de combat est complètement démodée à cette période-là. Si bien qu'à partir de 1748, la plupart des galériens en sont réduits à faire simplement des travaux d'utilité public dans le port. Et à partir de 1762, les libérations deviennent de plus en plus fréquentes. Les deux derniers galériens se nomment Antoine Riaille, et Paul Achard. Ils ont respectivement 77 ans et 64 ans quand ils sont libérés le 30 septembre 1775, date des derniers, après 15 ans donc de galères qu'ils ont passé l'un et l'autre. Si vous voulez, pour conclure sur ce chapitre, nous pouvons dire que les galériens ont été l'élite du protestantisme. Ils sont les 7000 qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. On peut dire que c'est au sens non seulement figuré, mais également au sens propre. Et c'est cette fine fleur de la France, voisinée avec l'écume de la nation, donc tous les criminels les plus endurcis qui se trouvaient avec eux. Et pour terminer, eh bien, je citerai tout simplement cette prière magnifique d'un de ces galériens pour la foi, qui disait ceci: « Fais Seigneur, que je regarde ces chaînes de fer comme un agneau nuptial, et les chaînes que je traîne comme les chaînes de ton amour. » Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus maintenant ?